Un tango, une danse, un baiser et un sourire.
Par les temps qui courent,
ça y est, puis 21h.
Marie Richelieu.
Il y a des figures qui nous ouvrent des portes, justement. Parfois, ces figures, ces êtres ne le savent même pas. Quelque chose a lieu pour nous, sans qu'on le sache.
Enfant, juste avant de dormir, je remontais le fil de l'histoire et de la discussion que je venais d'avoir avec un de mes parents, savoir quelle vague d'imagination nous avait portée. Je remontais mes manches pour retourner au commencement. Votre pièce La Rencontre, Simon McBurney, nous reconnecte puissamment avec l'enfant grisé par la fiction. L'enfant dont la conscience croit à vue d'œil. Vous proposez, en chuchotant, une rencontre avec les Mayaruna et une remontée de l'Amazone dans un mouvement aussi vaste que le fleuve. Car si vous chuchotez sur scène, nous avons toutes et tous un casque sur les oreilles et le travail des musiciens ingénieurs du son qui vous accompagnent font advenir un monde entier où le réel, le temps, la conscience, l'altérité, la communication sont profondément mises en question. Bonsoir Simon McBurney.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être là et soyez le bienvenu. Tout part peut-être d'un livre écrit par Petru Popescu à propos d'un autre homme qui s'appelle McIntyre, un photographe, un explorateur, et vous l'avez rencontré, Popescu, on l'écoute.
Warren McIntyre is one of the great last world explorers. He discovered the source of the Amazon River. He took a camera everywhere. Some of the greatest and most first-time photographs of South American tribes were by McIntyre. Aside from the fact that I thought that he had an incredible degree of personal daring, also he had a great curiosity about tribal men. He was so interested in it that he went alone to contact a tribe called the Mayaruna people who hit the news in the late 80s. It was called the Tribe Looking to Die. The Mayaruna were very untrusting about who was coming to meet them. But at the same time, they were reassured, it turned out later, that there was only one individual. When you are in a place like the jungle in Amazonia, where if you are under the canopy, you cannot tell where you are. You don't see the sun, you don't see the stars, you do not have any kind of orientation. You don't have any way of telling where you are. So he was not as much captured forcibly as he was forced to think, do I stay with them for a while? And I figure out later how I will return.
Simon McBurney, ici c'est la voix de Petru Popescu et c'est une interview, un petit bout d'interview qu'on a été prendre sur le site incroyable qui permet pas exactement la même expérience, la même exploration que celle que vous proposez sur scène, mais qui est quand même une vaste expérience. Donc la voix de cet auteur que vous avez rencontré, parce que la lecture d'un livre vous a tant marqué qu'il fallait vous mettre en chemin vers lui, qui vous a mis sur d'autres chemins. Alors ce livre d'abord.
Ce livre, on m'a donné il y a 30 ans et quand je l'ai lu, ça m'a fasciné pour plusieurs raisons. Mais j'ai jamais vraiment pensé que je vais mettre ça sur scène. Ça a été donné à moi par une magnifique metteuse en scène qui est malheureusement, elle est morte il y a 2 ans, mais c'était quelqu'un qui était très très important à moi. C'était un féministe socialiste, elle était du famille ouvrier, elle était extraordinaire par rapport avec l'immensité de connaissance de tous les textes, les grands textes du monde. Et ça m'a surpris beaucoup qu'elle m'a donné ce livre à lire. Alors, mais peut-être parce que c'était elle.
C'était
quelqu'un qui s'appelait Annie Castledine. Justement, c'était la première personne qui a fait confiance à Jane Birkin pour aller à Londres pour jouer dans les femmes de Troy, les Women of Troy. Et elle est devenue très amie avec Jane Birkin aussi. Mais c'est peut-être la seule liaison en France pour elle. Mais c'était quelqu'un vraiment d'extraordinaire parce qu'elle avait cette vision très très large, mais aussi très efficace par rapport avec tout ce qui est politique, tout ce qui est qui concerne ce qui est la justice, si vous voulez, dans le monde. Alors, j'étais surpris parce que je voyais pas exactement dans quelle boîte ce livre devrait être par rapport avec ce qu'elle, la personne qu'elle est. Alors, je l'ai lu et j'ai relu et j'ai pensé de plein de choses. Alors, il y a 10 ans après, j'ai fait un spectacle qui s'appelait Mnemonique, que justement a passé à Paris 2 fois, MC93, et c'était sur la mémoire. Et ce qui me fascinait sur la mémoire, cette question dit biochimique dans la tête, où se trouve la mémoire, c'est quoi et comment c'est produit. Et finalement, ce qui me fascinait, c'est que la mémoire, c'est pas quelque chose qu'on peut trouver quelque part dans la tête, mais c'est quelque chose qu'on crée chaque fois. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de fixe. C'est un acte créatif. Alors, la mémoire, l'imagination, c'est la même chose. Et à cause de ça, je suis devenu fasciné par l'idée de la conscience. Et j'ai commencé à travailler avec des neurologues, avec des psychoanalyses, des plein de différents genres, des spécialistes, des scientifiques. Je voulais savoir cette extraordinaire sensation que moi, je m'appelle Simon McBurney, et je suis ici d'un côté de cette studio et vous êtes de l'autre côté. Et moi, je suis pas dans votre tête, je suis dans la mienne, et pourquoi j'ai cette sensation tellement forte d'être séparé aux autres personnes, que j'ai ce monde complètement secret en moi, et pourquoi par exemple une pomme goûte comme une pomme, pourquoi je goûte, est-ce que c'est le même goût pour vous par exemple? Alors, des obsessions complètement idiotes parce qu'on tourne en rond avec toutes ces questions. Mais ça m'a fasciné parce que il me semble toujours dans le théâtre que il y a quelque chose où on n'est pas seul dans nos consciences. On rit au même temps, on pleure au même temps. Et tout d'un coup, on est conscient d'être dans une communauté des gens où vraiment ce qui est dedans est partagé quelque part entre nous tous. Alors, je suis demandé, est-ce que c'est notre idée du XXe siècle de conscience, est-ce que c'est juste? Alors, j'avais pas de réponse à ça. Mais au même temps, je suis retombé sur ce livre. Et les deux thèmes, si vous voulez, dans le livre, ce qu'il y a dans le livre et ce qu'il y a en nous, commençaient à s'approcher, petit à petit.
Alors, faut dire ce qu'il y a dans le livre, peut-être.
Oui, dans le livre, il y a, le livre, c'est le photojournaliste Lauren McIntyre, qui était obsédé par la longueur, ou fasciné par la source de l'Amazonie, de l'Amazone, de la rivière. Il voulait la chercher. Il travaillait à l'époque pour plusieurs publications, en particulier pour le National Geographic. Et eux, ils ont dit, mais c'est pas tellement fascinant au point de vue d'image d'aller aux sources d'Amazonie, mais on a entendu parler que les Mairuna, qu'on a pensé qu'ils n'existent plus, redécouvert les Mairuna au fond du forêt amazonienne, dans cette vallée qui s'appelle le Javari. Et ils ont demandé à McIntyre d'aller les chercher, de prendre les photos, et comme ça, ils vont donner suffisamment de ressources pour lui d'essayer de trouver la source de l'Amazon. Alors, on l'a posé dans la forêt. En effet, ils étaient trois. Il y avait quelqu'un qui pourrait traduire, ou dans un langue peut-être qui s'approche aux langues de Mariona. Il y avait le pilote de l'avion et McIntyre. Ils devraient rester ensemble. Mais en effet, ce qui s'est passé, c'est que le traducteur a tombé malade de malaria et ils devraient tous les trois retourner chez eux. Mais McIntyre a dit non, je vais rester ici, seul. Et dans un jour plus tard, il a fait contact avec ces gens qui étaient non contactés. Ils n'avaient aucun contact avec le monde de l'Ouest. Et il a commencé à les suivre dans la forêt. Ils ne pouvaient pas parler leur langue. Et eux, ils ne parlaient pas de portugais ni d'espagnol. Alors, c'était beaucoup plus profond dans la forêt qu'il a pensé. Alors, très vite, il s'est perdu. Il ne savait pas comment retourner à la rivière ou dans son camp. Et ce qui s'est passé, c'est que, dans un sens, il se trouve entre ces gens. Et en plus, il ne voulait pas, s'ils ont compris que McIntyre voulait retourner chez lui ou pas, ils n'ont pas laissé aller. Et il devrait rester avec eux, et eux, ils étaient en train de bouger assez vite à travers la forêt. Et c'était clair, ils étaient en train de fuir quelque chose ou de chercher quelque chose. Ils savaient pas quoi. Mais il a commencé à avoir une relation avec le chef du tribu. Il a essayé de faire un espèce de contact avec lui, dans le sens qu'il se mettait à côté de lui, il a montré quelque chose que lui faisait. Il s'échangeait des choses très simples.
Sans parler.
Sans parler. Et tout d'un coup, il était à côté de lui, à côté de son feu, et il a entendu une voix qui disait « Entre nous, il y a des amis. » Il dit « Mais qui a dit ça ?» Il a dit, mais personne n'a dit ça, parce que, voilà, c'était pas le chef, parce qu'il parle pas anglais. Voilà, rien ne s'est passé. Alors, il a continué à faire son truc, qui était une espèce de...
Du très sage.
Oui, voilà, un tressage d'un ceinture. C'était un truc qu'il a appris pendant qu'il était un marin dans la Merchant Navy. Mais c'était assez impressionnant, si vous voulez. Alors c'était quelque chose qui pourrait montrer, qui pourrait partager avec cet homme. Alors, il continuait, et quelques minutes après, il a entendu la même chose, « Some of us are friends ». Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, « Some of us are friends », entre nous, il y a des amis. Et il avait cette idée que lui, c'est le chef, essaye de lui passer un message. Alors, il lui a approché très proche à lui, so close he could hear the breathing in his nose.
Si proche qu'il pouvait vraiment entendre la respiration de son nez.
Oui, voilà. Et encore, il a entendu ses voix dans sa tête, pas à haute voix, mais dans sa tête. Some of us are friends. Alors à ce moment-là, il disait, est-ce que c'est quoi? Il essaie de m'avertir des choses, ou il essaie de m'assurer de quelque chose. Mais il avait une idée. Il a pris un peu de force en lui. Il a décidé de concentrer, pas sur les mots de son prochaine pensée, mais sur le contient. Sur le contient.
Sur le contenu.
Contenu, excusez-moi. Sur le contenu. Et au lieu de penser, moi aussi, je suis un ami, il a essayé de concentrer sur le feeling de ça. Et après, il a attendu. Et tout d'un coup, dans sa tête, apparaissait, je sais, I know. Et de là, il a commencé une espèce de communication non verbale avec cet homme, qui a duré tout le temps qu'il était là. n'y croyait pas, parce que c'était, si vous voulez, c'était vraiment quelqu'un qui se prenait pour scientiste.
C'était contre sa rationalité que d'imaginer qu'il entretenait avec ce chef Barnacle qui était à la tête de cette tribu, une sorte de dialogue qui commençait sans les mots. Voilà. Je vais préciser, Simon McBurney, que depuis quelques minutes que vous racontez cette histoire, qui est aussi l'histoire que vous racontez en partie sur scène dans The Encounter, vous le faites devant moi les yeux fermés.
Oui.
Hier, moi, quand je suis sortie du théâtre, je me suis dit, cet homme est possédé par cette histoire. Pas au sens magique du terme, au sens où vous m'avez donné l'impression que cette histoire, elle était en vous pour toujours. Et que vous étiez en mesure presque d'y retourner comme dans un paysage intérieur. Comme oui. Là, par exemple.
Oui, oui, peut-être. Mais ce qui me concerne avec cette histoire, c'est pas une espèce de... Ce que je veux dire est très précis sur ce point, c'est pas... Moi, je me fascine pas dans une façon romantique, c'est pas une question d'ethnotourisme, mais qu'il y a quelque chose dans ce livre qui concerne nous. C'est-à-dire... Et ce qui est tellement important dans ce livre, c'est ça propose une autre façon de voir au point de vue sur le monde. C'est-à-dire une autre façon de penser sur nous, conscience à nous, et de se poser des questions, se poser des questions de comment on vit nous. Alors, dans un sens, de plonger dans cette histoire, c'est aussi, pour moi, c'est de poser des questions au public, de comment eux, ils reçoivent des choses, comment eux, ils écoutent, ils entendent des choses, si vous voulez. Alors, cette question de conscience, bien sûr, la métaphore pour ça, dans le théâtre, c'est que tout le monde met des casques, alors les voix sont dans leur tête. Alors, l'image de la conscience est complète, parce que dans ce sens, le centre de nos têtes, c'est le centre de nos consciences. Et alors, je voulais provoquer un peu le public de dans le sens que eux, ils ont presque une expérience seule, mais au même temps, ils restent dans un public entier de 800 personnes.
Mais ça, pour le faire, il faut que vous ayez une expérience particulière avec cette histoire quand vous la racontez. C'est-à-dire que ce que vous nous proposez, vous le dites, c'est de plonger dans cette histoire pour nourrir une réflexion, éventuellement nous déplacer dans la manière dont on voit les choses, dans la manière dont on envisage notre conscience. Mais ça n'est possible que parce que vous faites une expérience très particulière de cette histoire en la racontant.
Oui, c'est-à-dire l'histoire que j'essaye de raconter, justement, c'est l'effet de l'histoire sur moi-même.
Exactement.
Et alors, j'essaye pas de rejouer les gens qui sont dans la forêt, mais au même temps de s'interroger quelque part l'histoire au même temps de le jouer, c'est-à-dire que vous rentrez peut-être un peu dans ma tête et aussi dans la tête de McIntyre. Alors les mots de McIntyre sont bien sûr dans le livre et je l'utilise comme une espèce de stream of consciousness, si vous voulez. Je ne sais pas comment dire ça.
Fleuve de la conscience, cours de la conscience.
Voilà. Comme il dit James Joyce. Et là, mais au même temps, il y a plusieurs histoires qui se déroulent au même temps. C'est moi qui essaye de chercher un peu l'histoire ou que je médite sur j'ai une méditation sur cette histoire et aussi j'évoque plein d'autres voix, les voix des gens qui sont peut-être des spécialistes au point de vue de mémoire, au point de vue de la conscience, au point de vue de la photographie ou peut-être même des gens qui ont travaillé avec des indigènes et la situation des indigènes dans la forêt d'Amazonie d'aujourd'hui, mais aussi il y a une autre voix dans ce spectacle, qui est la voix de ma fille, qui m'interrompt pendant tout le long du spectacle, pour me demander des choses, parce qu'elle dort pas bien. Et toujours, quand je suis seul avec elle, à la maison, elle se met debout, elle veut parler à moi pendant la nuit. Alors, c'est vrai, cette histoire de ma fille, mais au même temps, elle veut toujours savoir des choses sur lesquelles je travaille. Alors souvent, elle pose des questions extrêmement profondes, mais dans son innocence, si vous voulez. Mais au même temps, elle est pour moi la métaphore du futur. de nous tous, c'est-à-dire elle est jeune. Elle avait 5 ans quand je l'ai enregistrée comme ça et je l'ai mis dans le spectacle. Et pour moi, ça c'est aussi une question qui est posée dans le spectacle. Qu'est-ce qu'on va faire? Où on va avec la façon dans laquelle on pense? Et bien sûr, voilà. La question du temps, c'est aussi au fond de ce spectacle.
Absolument. Et on sent que, à la fois, la voix de cette petite fille, elle vient interrompre le récit, mais à chaque fois, le relancer sur une nouvelle piste, avec des questions. Qu'est-ce qu'il cherche, papa, lorsqu'il dit qu'il remonte le fleuve jusqu'au commencement? Qu'est-ce que c'est, en fait, le commencement? Et on sent que, dans le dialogue que vous mettez en scène avec ses voix sur scène et la voix de cet enfant, il y a aussi l'émerveillement de ce que c'est qu'un être qui élargit sa conscience comme on élargit, comme on voit s'élargir le fleuve. C'est-à-dire, vraiment, c'est ce que j'essayais de décrire au début, vous nous reconnectez avec ce que c'est qu'une conscience d'enfant, qui à la fois est très riche, mais aussi très embrouillée, parce que pour l'instant, les choses n'ont pas exactement la clarté que l'on peut avoir au fur et à mesure qu'on acquiert des connaissances, qu'on illumine des parties du monde, des parties du langage. Et donc, c'est comme si vous alliez, avec cette voix d'enfant, chercher en nous quelque chose du début de la conscience, qui est aussi votre sujet de recherche, Simon McBurney.
Oui, c'est-à-dire nous tous, on est en être humain, on est on est construit par des histoires, par des mots. Les mots, c'est la façon dans laquelle on précise le monde autour de nous.
Comme une mise au point photographique, vraiment.
Oui, oui, mais c'est aussi dans un sens un masque entre nous et le monde. C'est double, c'est une contradiction. Les mots peuvent exprimer le monde, mais au même temps, ça nous distance au monde. Alors, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, c'est des histoires. C'est-à-dire, nous deux, on est là parce qu'on, tous nous deux, on croit dans quelque chose qui s'appelle jeudi, qui n'existe pas. C'est une idée, c'est une histoire. Et on est en France, ça c'est une autre idée. Ça n'existe pas non plus.
C'est une autre histoire qu'on raconte.
Une histoire assez compliquée maintenant. si on recule de 2000 ans, il n'y avait pas de France, bien sûr. Il y avait que et bien sûr en France comme en Angleterre, il y a plusieurs langues. Alors on est plusieurs pays dans un pays. C'est ridicule d'un part d'imaginer que c'est un pays seul. C'est voilà.
De même que Simon McBurney est une histoire et que Marie Richeux est une histoire.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est difficile de persuader des gens qui ne sont pas, par exemple pour moi, que de me persuader que je ne suis pas Simon McBurney, parce que c'est une histoire très forte en moi. Et j'ai une impression très forte que j'ai de l'eau juste à côté de moi et j'ai le micro devant moi. C'est difficile à me persuader que ça n'existe pas. Mais en effet, cette idée que nous, qui est tellement fixe que notre soi est quelque chose qui est assez récent, il faut comprendre. C'est-à-dire, les gens n'ont pas toujours pensé qu'ils étaient isolés, chacun dans sa tête. Et dans un sens, ce qui est intéressant et ce qui est très fort pour moi dans cette histoire, mais aussi dans l'histoire humaine, parce que mon père, il était préhistorien, ce qui m'a fasciné, c'est que quand même, les gens étaient toujours en groupe, si vous voulez. Ils étaient toujours liés, c'est-à-dire moi je me définis par rapport avec vous-même. Alors, avec mes enfants, eux, ils ont une définition de eux-mêmes par rapport avec moi. Alors nous tous, on met des définitions de nous-mêmes par rapport avec nos parents, par rapport avec notre famille, etc. C'est-à-dire, ce qui est nous est quelque chose hors de nous, en relation avec des autres. Alors c'est pas quelque chose complètement privé, enfermé en nous, mais c'est quelque chose qui a toujours été en train d'être créé. Alors, d'essayer de revenir au début de votre question. Moi, je raconte des histoires à mes enfants. Moi, j'adore des histoires qu'on m'a racontées en étant enfant. Mais cette idée de raconter des histoires ou d'entendre des histoires, ou de jouer comme enfant, est quand même la base de tout. Et que nous, on coupe jamais avec ce début de nos vies.
Quand on a eu la chance de l'avoir, ce début-là.
Oui, oui, et voilà, tout à fait. Mais c'est une accumulation des choses. Et que, à un moment donné, on pense peut-être que c'est la réalité. On pense des choses autour de nous sont plus réelles qu'ils sont. Et en effet, quand nous sommes des enfants, on sait bien que c'est des histoires partout. Et que cette relation entre les histoires et le monde est tellement fluide. Et si vous voulez, it's porous. Je sais pas pour,
c'est poreux.
C'est poreux. Et on peut traverser cette frontière, facilement. Et dans ce sens, c'était aussi ça que j'essayais de faire dans ce spectacle. C'est de enlever quelques frontières pour le public, pour un moment, dans cette salle et d'avoir une expérience. Par les temps qui courent, Marie Richelieu.
Maître, où allez-vous ? Demanda Bourrasque. À la Grande Vallée, dit Épaisseur Obscure. Pourquoi ? La Grande Vallée est le lieu où l'on verse sans jamais remplir, où l'on puise sans jamais épuiser. Simon McBurney, ce sont des mots de Chuang Tzu qui sont cités par le compositeur Lionel Marchetti, pour parler de cette grande composition qui s'appelle La Grande Vallée. C'est une pièce de 1995 et les enregistrements sont faits à la fois en studio, au groupe de recherche musicale, et à la fois pendant 2 ans dans la Drôme et dans le Mont Ventoux, en France. Vous parliez à l'instant de proposer une expérience à la fois à vous-même et aux spectateurs qui sont réunis. Et cette expérience passe en très grande partie par le son, par votre voix, la voix de votre fille, on en a parlé, la voix des gens que vous avez été interrogés qui viennent à nous, et tout un tas de sons qui refont un monde, qui refont la jungle, qui refont la forêt, qui refont le fleuve. C'est une expérience extrêmement puissante, vraiment. Rare, même pour quelqu'un qui fait la radio et qui aime la radio.
Moi aussi, j'aime la radio, oui.
Mais
il y a quelque chose avec la radio que personne ne parle. La radio, c'est tellement visuel, faut le dire. C'est beaucoup plus visuel que la télé. La télé, c'est tellement plat et ça réduit tout à 2 dimensions comme ça. Mais la radio, c'est toujours extrêmement visuel. On voyage beaucoup plus loin dans la, avec la radio qu'au télé. Mais,
et justement, c'est ça qui se passe avec The Encounter, votre proposition, c'est que vous créez une profondeur infinie. Que peut le théâtre, que peut le théâtre, on va dire un peu classique. Mais là, j'ai vraiment eu l'impression qu'on prenait des kilomètres dans le ventre, quoi. Alors parlons pratiquement. Comment ça s'est passé, cette création sonore? Comment ça se passe en direct, sur scène? Vous mentionnez évidemment ces ingénieurs qui sont des musiciens, mais il y a aussi ce que vous fabriquez comme son.
D'abord, une chose que j'aimerais bien dire, c'est que... Ouais. Alors, c'est très simple, parce que j'ai quelques micros. J'ai 5-6 micros.
Sur scène.
J'ai un micro sur ma tête, et ce qu'on appelle le valier, et puis j'ai deux micros à côté de moi. Et... en plus, j'ai une tête sur scène, au centre de la scène. Et ça, c'est un micro, ce qu'on appelle un micro binaural. C'est-à-dire, c'était inventé, je sais pas, il y a peut-être même 70 ans, pour répliquer la tête humaine et comment on entend des choses. C'est-à-dire, dans les grandes gares, souvent il y a des annonces, et il voulait savoir si vraiment on pouvait entendre les voix dans les espaces publics. Alors ils ont inventé ça parce que là, si on y va, c'est tellement subjectif si j'entends quelque chose ou j'entends pas. Alors ils ont inventé une tête. Et cette tête, c'est une réplique de nos têtes, c'est-à-dire ça enregistre dans trois dimensions, c'est-à-dire dans l'espace tout autour de nous. On l'entend seulement si on a des casques. On peut entendre cette illusion d'espace, la spatialisation autour de nous. Alors j'introduis cette tête sur scène pour en mettre vraiment les spectateurs sur scène avec moi. Parce que je veux que eux, ils se mettent au centre de cette expérience au lieu de rester en arrière en train de regarder quelque chose. Et si je tourne autour de cette tête, vous avez l'impression que moi, carrément, je tourne autour de vous-même. Si je chuchote derrière votre oreille droite, vous allez avoir la sensation que je suis vraiment là. Mais en effet, si vous voulez, comme on a dit tout à l'heure, c'est notre histoire, c'est notre fiction. C'est pas vrai, c'est nos imaginaires, nos imaginations qui font vivre.
Et nos sens, c'est notre imagination à partir de quelque chose de tellement sensoriel.
Ouais.
C'est-à-dire que votre présence imaginative, mais j'ai envie de dire aussi, et c'est tellement puissant, la présence de la pluie, la présence des oiseaux, la présence de la terre, la présence des feuilles, la présence des canopées, en fait, c'est une reconstruction imaginaire à partir de ce que j'entends. Et c'est ça, la puissance de ce qui est mis à vue d'une manière qui est prodigieusement simple, mais en même temps tellement complexe. C'est parce que j'entends quelque chose et que je l'entends d'une certaine manière que d'un seul coup, je suis capable de convoquer avec une puissance indéfectible la forêt, le fleuve, les animaux, la nuit, les étoiles.
Ben,
c'est génial.
Merci. Moi, je trouve que cette capacité que nous en nous, d'imaginer des choses, de plonger, de nous mettre autre part, c'est tellement magnifique.
Non, mais c'est ça, quand je dis c'est génial, c'est votre spectacle, mais c'est nous aussi. On est géniaux parce qu'on peut convoquer tout ça.
Oui.
Hyper
fort. On peut y être.
On peut y être.
Tout à fait. Et aussi, j'insiste pendant tout le long du spectacle que vous voyez comment je le fais. C'est tellement important que vous voyez que c'est complètement artificiel. Et vous voyez que j'utilise un pédale qui fait le looping, par exemple, j'utilise plein de choses, mais je vous montre comment je l'ai fait. J'ai fait les sons de forêt, je l'ai fait pour mon enfant, et le public ensuite l'entend, et ils y croient.
Et ça n'enlève rien. C'est-à-dire qu'on vous voit prendre le paquet de chips, là, hop, vous faites ça, mais c'est pas exactement ça, parce que là, c'est une bouteille d'eau que j'ai, mais on vous voit prendre le paquet de chips, on vous voit devant le micro, on sait que c'est un paquet de chips, on sait en plus que c'est un paquet de chips Vico, et pourtant, ça va devenir des flammes dans quelques secondes, et ça n'enlèvera pas notre puissance de croyance dans le feu.
Et dans un sens, ça approfondit cette puissance de croire dans le feu. Parce qu'on voit, parce qu'on est impliqué dans le moment de création.
La fabrication de l'image.
Oui, oui. Alors si le moment de créer quelque chose ensemble, si vous et moi on crée quelque chose ensemble, tout d'un coup, quand ça marche, on est tellement plus loin, nous deux, que au lieu de simplement de voir quelque chose.
On est plus fort parce qu'on a associé notre puissance d'y croire.
C'est ça. Tout à fait. Et dans un sens, on a perdu un peu ça, parce qu'on est dans une société consommateur, fanatique, où on veut des choses finies, et on passe à l'autre chose. Et ça, c'est quelque chose de très important par rapport avec ce spectacle. Et c'est ça qui nous rend humains, mais aussi, justement, comme vous venez de dire, ça approfondit la sensation de ce qu'on de ce que, la sensation de la participation dans l'histoire où on se trouve après. And if I were to breathe in your ear, your brain would tell you that I was really breathing in your ear, and it might even start to get hot.
He didn't speak to me. I think he spoke to me without words. Just as Barnacle undid my spell by running counterclockwise, I could be the crack between here and there. The crack through which another time, our time, might flood.
C'est un extrait très 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 court, Simon McBurney, de ce qu'on peut avoir dans le casque pendant le spectacle The Encounter. Et si l'on revient à l'histoire, si on revient à McIntyre et à sa rencontre avec les Indiens, à sa propre expérience dans l'Amazonie, pourquoi est-ce que ce que lui vit et la manière dont il le raconte et la manière dont Popescu le raconte à sa suite nous permet de comprendre ou d'éclairer ce qu'on a essayé de dire tout à l'heure, c'est-à-dire la conscience, l'expérience sensible, la fabrication de l'image imaginaire. Pourquoi est-ce que l'aventure de McIntyre avec les Indiens nous parle de ça?
Ça c'est ça c'est au fond du spectacle. C'est justement parce que lui, c'est dans un sens, c'est une histoire colonialiste, c'est un blanc, c'est un homme blanc qui part dans la jungle pour carrément prendre des photos. Et le verbe prendre, bien sûr, c'est important. Because he takes something without
asking.
Parce
qu'il prend quelque chose.
Without asking.
Sans demander.
Comme on a toujours fait. C'est-à-dire, c'est ça notre histoire européen, c'est toujours de prendre, d'assumer, d'essayer de conquérir, si vous voulez, des endroits qu'on croyait qui sont vides ou c'est à nous si on veut. Lui, même qu'il était très très sensible dans l'environnement dans lequel il se trouvait, il faisait quelque chose que maintenant, bien sûr, on ne fera plus. Mais je voulais mettre tout le monde dans son position, c'est-à-dire parce que c'est nous tous, c'est notre histoire. Et aussi, en même temps, et ce qui se passe, c'est que lui-même, le moment que son camarade est cassé, et le moment qu'il perd tout, sa montre,
ses baskets,
il est plongé dans une situation où il doit être avec eux, non pas seulement simplement physiquement, mais en tous les sens d'être avec eux. Et il est d'un côté prisonnier, mais de l'autre côté il c'était dans le sens que eux il le veut qu'il soit là, et on comprend pourquoi au fur et à mesure pendant le spectacle. Mais en même temps, pour survivre, il doit petit à petit lâcher toutes les assumptions, les choses que lui fait, qu'il est de son culture à lui.
C'est exactement ce qu'ils font, eux, parce que vous le disiez tout à l'heure, il se trouve que McIntyre les rencontre à un moment donné où ils sont en mouvement.
Oui.
Cette tribu se déplace, et on comprend qu'il se déplace parce qu'il cherche quelque chose. Que cherche-t-il ? Demande tout le temps la petite fille. Il cherche le commencement.
Oui.
Le commencement du fleuve, mais le commencement tout court. Il remonte quelque chose. Et à chaque fois qu'il se déplace, il brûle.
Oui.
Il brûle tout ce qui leur paraissait si utiles, si pratiques, tout ce qui leur avait permis de
toutes les choses matérielles.
S'installer à un endroit dans la forêt matériaux. Pour un moment.
Oui, oui, voilà.
Et forcément, McIntyre regarde ça en me disant, mais pourquoi vous faites ça? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que ma caméra, mes baskets, ma montre est partie presque de la même manière? Et qu'est-ce que lui explique un Indien avec lequel il finit un petit peu par parler, qui s'appelle Cambio? Qu'est-ce qu'il lui explique, Simon McBurney?
Bah, il explique que en brûlant tout ça, que les objets matériels sont jaloux de leur esprit et qu'ils tient sur place, tient dans le temps. Et si on brûle tout, on se libère quelque part dans le temps. On n'est plus attaché au temps comme on expérience normalement.
C'est que les esprits...
Et l'idée, leur idée du temps, c'est que devant eux, il y a le commencement. C'est-à-dire un commencement de la Terre où il n'y a plus de blanc, plus de ce qu'on appelle le monde civilisé. Mais c'est pas disparu, c'est pas encore apparu. Mais ils vont pas en arrière. C'est ça ce qui est important. Leur idée de temps, c'est d'aller en avance, d'avancer vers le début. Et c'est ça ce qui est tellement fascinant, parce que pour commencer ou recommencer, c'est pas quelque chose. Pour eux, c'est pas une nostalgie, mais c'est un besoin. Et à un moment donné, ils disent, McIntyre disent au chef, mais si on va au début, si on est déjà presque là, qu'est-ce qui va se passer si on entend un avion, par exemple? Et le chef dit à lui, mais quand est-ce que vous avez entendu un avion la dernière fois? Et tout d'un coup, il se rend compte que ça fait des jours, même peut-être une semaine, qu'il a rien entendu. Tandis qu'avant, tous les jours, il voyait peut-être des lignes de fumée de vapeur dans les ciels, dans les cieux, où c'est des traces d'avion. Mais il se rend compte, tout d'un coup, il voit plus rien. Il a entendu plus rien. Il dit, merde. Ils ont raconté une histoire. They've talked a new reality into being. Ils ont raconté une nouvelle réalité.
Et qui est en train d'advenir. C'est ça,
oui, oui.
C'est que la puissance de l'histoire qui est, nous sommes en train de aller vers le commencement,
oui.
Elle se passe effectivement pour McIntyre.
Oui, cette histoire de temps, c'est tellement important. Parce que nous, on a une histoire de temps, c'est-à-dire notre modèle classique du temps, c'est que c'est une ligne sur laquelle on court comme des fourmis et ça avance petit à petit à petit, mais c'est toujours horizontal. Tandis que maintenant, les gens qui sont des scientifiques, des physicists par exemple, il sait pas encore exactement ce que c'est le temps. C'est lié bien sûr à l'espace, c'est-à-dire mais ça fonctionne de la même façon, c'est-à-dire vous êtes maintenant vous pouvez être devant moi et si je me retourne, vous êtes derrière moi. Alors vous êtes dans les situations différentes. Alors le temps, ça c'est la même chose. C'est-à-dire ça fonctionne un peu pareil, peut-être. Mais nous, on ne sait pas exactement ce que c'est. C'est-à-dire ça pourrait être
un cercle.
Un cercle. C'est-à-dire on voit ça dans le cercle de l'année, dans les saisons, bien sûr. Mais peut-être dans une façon plus profonde, ça peut être dans un cercle. On ne sait pas. Au point de vue de le commencement de l'univers, est-ce que ça c'est quelque chose qui va recommencer? On sait même pas. Il y a une possibilité qu'il y a des temps en parallèle, comme il y a une possibilité qu'il y a des univers en parallèle, un infini de univers en parallèle qui existent au même temps que nous, où il y a une autre station de radio. Avec un autre Simon McBurney et nous tous, mais il y a des ou peut-être il parle français beaucoup mieux qu'il parle, par exemple. Mais Et ce qui est fascinant pour McIntyre, c'est de vraiment poser des questions profondes sur sa vie. Et ça a changé sa vie pour le reste de sa vie. Ça a changé profondément son esprit, qui il était. Mais ce qui est extraordinaire, il racontait cette histoire à personne. Sauf que 20 ans après que ça s'est passé, il a commencé à raconter à, c'est Petru Popescu qui l'a persuadé de commencer à dire cette expérience. Il a parlé aux frères Vélez Boas, qui sont des gens tellement fascinants au Brésil, qui étaient les premières personnes qui a lutté pour le droit des indigènes dans la forêt de l'Amazonie pendant les années 50-60, et qui ont créé un immense territoire, le taille de la Belgique en Amazonie, qui s'appelle le Jingu, où c'était protégé depuis au milieu des années 60. C'est la première fois que ça s'est fait. Et les frères Vélez Boas ont dit à McIntyre, mais oui, c'est possible, les choses que vous avez
expérimentées.
C'est possible. Mais lui, il avait peur que les gens vont rire à lui aussi, parce qu'il se croyait vraiment comme scientiste, comme quelqu'un vraiment
de rationnel. De la
science. Oui, tout à fait. Et même quand ça a été publié, le livre, il a téléphoné plusieurs fois à Popescu, mais peut-être on devrait pas faire ça, parce que les gens vont pas y croire, etc. Mais ce qui est important, c'est que quand même pour nous, c'est ce que je veux faire en racontant cette histoire, en faisant cette morceau de théâtre, c'est de poser des questions à nous. Comment nous on vit maintenant? Comment nous on voit des choses? Parce que nous, on vit dans un monde qui est tellement séparé, un à l'autre, avec cette idée de soi, où moi je suis enfermé dans ma tête et vous dans l'autre. Dans cette idée de fragmentation, où même on met des murs et des frontières partout, entre les gens, et entre les femmes et les hommes, et entre les peuples. C'est un moment où on doit s'adresser à qu'est-ce qui nous lie ensemble. Et est-ce que vraiment, ce qu'on a dans la tête, ce qu'on appelle la conscience, est-ce que c'est vraiment dans nos têtes, ou est-ce que quand même, c'est quelque chose qu'on partage ensemble? Et de vraiment commencer à penser autrement, c'est bien sûr, c'est extrêmement urgent, parce qu'on est dans un moment de crise.
Le monde est idiot. Un autre l'a dit très bien, c'est un ami de Musil, qui était physicien très célèbre, qui a dit, cette formule que je reprends souvent parce qu'elle est très éclairante sur beaucoup de points de ce que je raconte dans mes livres, c'est le monde est un objet et quelque chose, enfin le monde est quelque chose dont le complément en miroir n'existe pas. Il n'y a pas de miroir du monde. On ne peut en imaginer que miroir, comme miroir du monde, que l'illusion d'une perception d'un double. Et comme il n'y a pas de miroir du monde, il n'y a aucun moyen de voir le monde. Et c'est pourquoi la réalité, ça je l'accorde volontiers, est également quelque chose dont on peut parler. Je m'y suis adonné, peut-être pas toujours bien dûment, mais c'est une chose qu'on ne voit pas. C'est ce qui vous tombe dessus. C'est un peu ce que disait Lacan, d'ailleurs, le réel, ce que disait la trilogie, le réel, l'imaginaire, symbolique. Le réel, bon, c'est quand brusquement quelque chose vous tombe dessus qu'on n'avait pas prévu, comme un objet, c'est également ce qui tombe dessus, objectum. Quelque chose qui vous arrive, un caillou qui vous arrive à la figure. Le complément en miroir n'existe pas, c'est-à-dire que le monde est incompréhensible parce que solitaire, on ne peut pas se le représenter, il n'y a pas de miroir.
C'est la voix du philosophe Clément Rosset en 2013 au micro de Laure Adler pour l'émission Hors-Champ sur France Culture. Simon McBurney, c'est la dernière archive de cette émission. Clément Rosset qui vient de mourir et qui a consacré une grande partie de son œuvre philosophique à la question du réel. Question que vous agitez dans tous les sens dans cette création The Encounter. De même, en sortant du théâtre hier, je me suis dit Simon McBurney est possédé physiquement par cette histoire. De même, je me suis demandé comment en sort-il. Est-ce qu'il y a pour vous, en ce moment, dans votre vie, l'espace du théâtre, qui est un espace du réel, et puis, par exemple, je ne sais pas, ce matin, vous vous réveillez à l'hôtel, et vous venez ici, à la radio, pour parler. Est-ce que vous réussissez à mettre une frontière? Comment sortez-vous de cette expérience de 2 heures de théâtre, où vous racontez cette histoire?
J'en sais rien, mais voilà.
Elle est aussi réelle que le reste.
Bah oui. Des fois, des gens ils me demandent est-ce que c'est épuisant, et pas vraiment, parce que je tombe dans une espèce de transe pendant que je joue. J'ai l'impression que ça se passe très vite, ou des fois c'est long, mais pour la plupart c'est vite. Mais j'ai la sensation que toujours je suis dans une espèce de fluide où vraiment je fais pas de frontière avec une chose et une autre. Et ce qui est fascinant pour moi avec le théâtre, c'est qu'on a ce lieu où on va, comme l'écrivain John Budge dit, c'est un acte de retour rituel qui se fait tous les nuits. Et justement, ce côté rituel est peut-être quelque chose de beaucoup plus important pour nous. Et
pour nous, c'est-à-dire?
Pour nous, quand on croit, c'est-à-dire on est dans un moment extrêmement matérialiste donne notre histoire, et cette ritualisation des choses, c'est quelque chose qui est fondamental pour les êtres humains, pour s'attacher à la terre, pour justement s'attacher au réel, si ça existe. Parce que sans ce rituel, on croit que nous, on a la possibilité de tout faire, que on peut aborder n'importe quoi, que mais on s'attache pas vraiment à toutes les choses. Mais ces questions de rituel est extrêmement important, et c'est quelque chose qui est une question importante aujourd'hui par rapport avec la religion. C'est-à-dire l'idée de Dieu, bien sûr, c'était toujours un métaphore. Ce qui est important, par exemple, je donne l'exemple, une immense, magnifique scientiste à Cambridge que j'ai connu, qui s'appelle Martin Rees, homme extraordinaire. Je sais bien qu'il est athéiste, mais j'ai su aussi que tous les dimanches, parce qu'il était dans un collège à Cambridge, il est allé à la chapelle. J'ai dit, mais pourquoi vous faites ça? Il dit, ben, c'est le rituel de mon tribu. Et à cause de ça, chaque fois qu'on mange ensemble, chaque fois qu'on fait des choses ensemble, mon père, c'est un rituel. Et le rituel humain nous place, nous situe dans le monde. Et ce qui est la chose la plus importante, parce que dans ce sens, on est tous maintenant, on a un sens de homelessness. Je sais pas, on est sans abri quelque part. Et on est tellement divisé, on ne sait pas d'où on vient ou ce qui nous lie. Un endroit, mais quand je dis l'endroit, c'est pas un endroit physique. Forcément, mais c'est quelque chose qui nous, où on se sent situé. Et c'est ça, pour moi, chaque fois de faire une pièce de théâtre, c'est d'essayer de situer tout le monde dans ce moment, tous ensemble, pour un moment, être présent ensemble, comme ça, comme dans tous les rituels, parce que la présence dans les rituels, c'est ça qui font les rituels. Vous êtes présent, c'est-à-dire vous chantez ensemble ou vous faites quelque chose ensemble et vous installez. Et bien sûr, dans le théâtre, et le théâtre, ça prend tellement de différentes formes. Le théâtre concerne le présent et ça se passe dans le présent. Et pourquoi ça c'est important par rapport avec nos sociétés aujourd'hui? Parce que c'est en opposition au status quo. C'est-à-dire, dans une société fanatique, consumériste, capitaliste, on n'est jamais dans le présent. Pourquoi? Parce que c'est un système qui dépend de nous, qu'on voit quelque chose, qu'on veut, c'est-à-dire quelque chose dans le futur, soit dans un magasin, soit dans quelque chose où on n'est jamais satisfait, parce qu'on doit avoir quelque chose dans le futur. On va, on l'a, on l'achète, on prend, c'est dans le passé, et tout de suite, on doit vouloir la prochaine chose, et la prochaine et la prochaine. C'est un système infernal où on n'est jamais satisfait. On passe très peu de temps dans le présent, même, je dirais, rien. On vit dans une sensation d'envie, tout le temps. Et ça, c'est dangereux, parce que pourtant, pour nous situer, et c'est ça qui nous fait qu'on n'est plus chez nous, jamais chez nous, parce qu'on est en train d'essayer d'aller autre part. Et c'est seulement dans ce moment de présent, dans ce moment de rituel de retour, que finalement, on se pose sur cette terre, et aussi, au même temps, on sait qu'on n'est pas seul, qu'on est quand même... On existe seulement en communauté et seulement dans une continuité qui nous lie à un passé profond et un avenir lointain.
Merci infiniment Simon McBurney. Je pense que The Encounter est une des choses les plus impressionnantes et puissantes que j'ai jamais vues au théâtre. Donc je forme le vœu que le plus de personnes puissent aller le voir. Ces Indiens Mayaruna existent. Lorsqu'on détruit leur environnement, on détruit le nôtre, puisque tout cet environnement nous appartient à tous, vous le rappelez, à chaque fin de spectacle. Merci Simon McBurney.
Merci.
Par les temps qui courent, qu'est-ce qui vous fait sourire?
Le soleil.
Par les temps qui courent, qu'est-ce qui vous fait pleurer?
Les gens.
Par les temps qui courent, qu'est-ce qui vous fait vous déplacer?
De chercher le chez moi.
Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h sur France Culture et quand vous voulez sur franceculture.fr ou en podcast. Au son ce soir, Julien Calvas, à la réalisation Lise-Marie Barré, Jeanne Léos, Romain de Bec de Lièvre, Oriane Delacroix m'aide à penser cette émission. Je réponds @MarieRicheux sur Twitter.